Bonjour.
Alors, on commence peut-être par une définition, Séverine. Les FODMAPs, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu barbare?
Alors, c'est un nom un petit peu barbare. En effet, il se cache des sucres, qui sont des sucres fermentescibles, donc qui créent de la fermentation, qui sont sous différentes formes, qui sont des oligosaccharides, des monosaccharides, donc c'est des sucres, d'où le nom justement de FODMAPs.
On les trouve où?
Alors, on les trouve dans différents aliments. Hein. Il y a différents FODMAPs. Il y a par exemple le fructose, qu'on trouve principalement dans les fruits ou dans le miel, ou dans le sirop de fructose qui est utilisé dans certains produits édulcorés aussi. Un des autres FODMAPs, c'est le lactose, qu'on trouve dans les produits laitiers. On trouve des oligosaccharides justement dans le blé. On parlait du blé tout à l'heure. Dans le blé, dans l'ail, dans les légumineuses typiquement. Et puis, il y a encore les polyols qu'on trouve dans les fruits ou bien dans des produits édulcorés, sous forme de sorbitol, mannitol, dans les produits light.
Mais dans certains cas, le FODMAP, c'est un produit naturel, c'est quelque chose de naturel.
Tout à fait, c'est des sucres qui sont présents naturellement dans tous ces aliments.
Et ces sucres, est-ce qu'il y a des aliments qui sont particulièrement riches? Parce que là, avec la liste que vous nous faites, on a l'impression qu'il y en a partout des FODMAPs.
Alors, en effet, il y en a un petit peu partout dans tous les groupes d'aliments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas forcément intolérant à tous les FODMAPs. On est intolérant à une certaine quantité de FODMAPs. En enlevant peut-être un, on commence des fois par exemple par le lactose, on se rend compte que ça va beaucoup mieux. C'est vraiment on a un seuil de tolérance, donc c'est pas un régime strict. Parce qu'en effet, sinon, on mangerait quasi plus rien.
Donc ça veut dire que les soucis digestifs sont liés à ce qu'on va manger, mais surtout à la quantité d'aliments qui va être ingurgité.
Exactement, c'est vraiment un seuil de tolérance en lien avec la quantité et avec des prédispositions personnelles. Il y a des gens qui ont un seuil de tolérance qui sera très bas et d'autres qui ont un seuil de tolérance qui est beaucoup plus large et qui peuvent manger des aliments qui contiennent des FODMAPs jusqu'à un certain seuil en fait avant d'avoir des désagréments digestifs.
Vous avez régulièrement des patients qui pensent être allergiques au gluten et qui viennent chez vous avoir des conseils pour une alimentation sans gluten. Et puis en fait, pas du tout, c'est les FODMAPs qui sont le problème. C'est quelque chose de régulier.
Oui, c'est quelque chose d'assez régulier. Justement, on se trompe un petit peu d'ennemis. C'est sûr qu'on a beaucoup parlé du gluten ces derniers temps. Donc dès que quelqu'un a mal au ventre ou a des soucis digestifs, on pense au gluten. C'est pas tout faux d'un côté, parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui sont justement sensibles à ces oligosaccharides qu'on trouve aussi dans le blé. Donc, en faisant un régime sans blé, donc sans gluten, on enlève aussi ces oligosaccharides. Donc, le résultat est un petit peu le même, ça va mieux, mais c'est pas parce qu'on a enlevé le gluten, c'est parce qu'on a enlevé ces sucres, ces oligosaccharides dans les fructanes qui sont dans le blé.
On a l'impression qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau. Ça veut dire que nous sommes devenus de plus en plus sensibles. On supporte de moins en moins de choses, finalement.
Alors, peut-être qu'il y a des changements physiologiques. Ça, c'est des changements qui sont assez lents. Je pense qu'on diagnostique peut-être aussi un petit peu mieux certains soucis. Et on est peut-être aussi un petit peu moins tolérant, je dirais. Dès qu'on a un peu mal au ventre, un petit peu ballonné, on cherche la cause, alors que... On cherche la petite bête, peut-être qu'alors avant.
Et puis elle s'appelle FODMAP, aujourd'hui.
Celle-là, elle s'appelle FODMAP.
Vous parliez de diagnostic. On peut dépister, on peut faire un test pour savoir si nos soucis digestifs ils sont liés au gluten, au FODMAP, à quel FODMAP particulier. Ça se teste.
Alors il y a certains tests qui existent. Alors par rapport au gluten, là où il y a des tests vraiment bien protocolés pour détecter si on est intolérant au gluten, donc si on est cœliaque, ça se fait par une prise de sang, par une biopsie, etc. À ma connaissance, pour les FODMAPs, il y a des tests qui sont validés pour le lactose et pour le fructose. Je ne crois pas qu'il y a d'autres tests. On fait souvent des régimes d'exclusion et on regarde si ça va mieux avant de réintroduire pour confirmer le diagnostic.
Cette intolérance aux FODMAPs, est-ce qu'elle est comme le gluten ou comme, alors peut-être pas le gluten, je ne suis pas sûre, mais en tout cas comme le lactose, c'est une intolérance qui ne va pas forcément être là depuis la naissance. Elle peut survenir à n'importe quel moment et puis surtout, elle peut évoluer.
Oui, tout à fait. Alors, le lactose est un des FODMAPs, hein, qui est un sucre qui est justement fermentescible. Ça peut venir... les clients que j'ai, les patients que j'ai, c'est plutôt des patients adultes, mais ça peut arriver, c'est rarement chez des enfants. Mais comme vous dites, ça évolue et c'est en lien aussi avec le stress, avec les certaines périodes de la vie. On se rend compte aussi qu'il y a des tolérances qui sont différentes avec une consommation de café ou d'alcool ou la fatigue ou le cycle chez la femme. Donc c'est des choses qui évoluent en effet.
Est-ce qu'il y a des symptômes qui doivent pousser à une consultation? Est-ce qu'il y a certaines choses, des signes où là on se dit ouais, quand même, ça serait bien d'aller consulter pour justement faire un régime d'exclusion avant de réintroduire les aliments?
Oui, je pense que le point important, c'est vraiment l'aspect chronique, c'est d'avoir des douleurs, d'avoir des ballonnements, d'avoir des nausées, des troubles du transit sur une longue période. On a tous un petit peu des périodes où on a peut-être un peu mal au ventre ou un transit qui est un petit peu perturbé. C'est vraiment l'aspect chronique et puis d'avoir tout le temps mal au ventre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit faire... On doit se dire, moi, il y a certainement quelque chose dans mon alimentation qui joue pas.
Quand on parlait tout à l'heure de la similitude qu'il peut y avoir avec des problèmes liés au gluten, en éliminant les aliments qui contiennent du gluten, on peut continuer à manger des aliments qui sont riches en FODMAPS, d'où l'importance vraiment d'avoir toutes les informations en main et puis d'avoir un régime alimentaire qui soit correct.
Oui, c'est important d'avoir, je pense, un diagnostic qui est juste, qui est précis. Le risque, moi j'ai aussi beaucoup de patients qui viennent, qui ont enlevé déjà plein de choses dans leur alimentation, qui ont quand même toujours des douleurs. Donc le but, c'est d'y aller vraiment un peu de manière assez protocolaire, en disant on enlève déjà ça, on enlève par exemple déjà le lactose, on regarde ce que ça donne. Le risque, c'est toujours d'avoir des carences alimentaires, des alimentations qui sont pas variées, qui sont pas diversifiées, avec ce risque de carence. Donc je pense que c'est important d'avoir un diagnostic précis pour avoir le régime adapté.
Alors Séverine, on a vu certains aliments qui sont particulièrement riches en FODMAPS. Pour se sentir mieux, on fait quoi? On élimine tout?
Alors, non, on essaye de... Alors, en effet, comme je disais, il y a plusieurs FODMAPS, donc ça dépend un petit peu de la situation. On fait souvent en fonction de ce que nous rapporte le patient. On essaye déjà d'enlever peut-être les aliments qui sont souvent consommés et pour lesquels il y a des liens qui ont été établis par la personne qui vient nous voir. On peut commencer par exemple par enlever tous les produits qui contiennent du lactose. On regarde comment ça se passe après quelques semaines. Si ça va mieux, tant mieux. S'il n'y a pas de changement, on enlève peut-être un deuxième FODMAP. Donc, on enlève peut-être, par exemple, le fructose. On y va comme ça de manière par étape pour être sûr. Si on enlève tout en même temps, ben on ne sait pas lequel pose problème, s'il y en a seulement un qui pose problème.
C'est là qu'on voit que c'est important d'être suivi, de pas s'improviser hein, en diététique, parce que ça vous permet justement de mieux cerner le problème, donc de ne pas éliminer des aliments qu'il ne faudrait surtout pas éliminer.
Oui, et puis en effet, souvent les gens, avant de venir nous voir, ils ont déjà fait pas mal de tests, hein, ce qui est compréhensible quand on a des douleurs, des soucis digestifs. Puis des fois, en enlevant un petit peu tout et rien, ils ont quand même toujours mal au ventre sans vraiment pouvoir savoir quel est l'ennemi recherché. Donc on essaye de tout remettre à plat, d'essayer de faire des liens entre les symptômes, la consommation de certains aliments, et puis d'y aller vraiment de manière assez protocolaire, comme ça en enlevant un, en regardant comment ça se passe. Le but, c'est d'essayer d'en enlever le moins possible pour éviter justement des alimentations qui sont vraiment peu variées, qui sont très strictes, et puis qui peuvent être carencées après.
Ben justement, c'est là que je voulais en venir, parce que c'est une question que je me pose depuis un petit moment. Lorsqu'on bannit complètement certains aliments de son alimentation, des aliments qu'on sait qu'on ne supporte pas, il y a des carences qui vont arriver après.
Alors c'est justement aussi pour ça que c'est important de se faire conseiller par un professionnel de l'alimentation. C'est que il y a certains aliments peut-être qui pourront être remplacés par d'autres avec les mêmes caractéristiques nutritionnelles, et c'est là où on pourra donner des conseils en disant, ben par exemple, si on enlève le lactose, de proposer des produits qui sont sans lactose mais qui ont quand même du calcium par rapport au calcium, ou si on enlève certains aliments riches en fructose, on va faire peut-être attention à la vitamine C parce qu'on va enlever certains fruits, certains légumes. Donc ça sera vraiment de trouver des petits trucs et puis de remplacer par d'autres aliments ou d'autres boissons pour éviter justement les carences sur le long terme.
Alors, vous l'avez dit, deux phases, hein, une phase d'élimination et puis une phase de réintroduction des petit à petit des différents aliments. Ça prend combien de temps? Est-ce qu'on a un planning qui est assez précis en disant, bah voilà, phase d'élimination, c'est 3 semaines et puis après, on va réintroduire sur 1 mois. Enfin, il y a un planning précis comme ça?
Alors, il y a un planning qui est précis, oui et non, parce qu'on va s'adapter à la personne, mais on fait des phases souvent d'élimination entre 2, 4, maximum 6 semaines. Souvent, il y a des résultats positifs assez vite quand on trouve la cible. Donc, et puis après, on essaye de réintroduire petit à petit l'aliment qu'on a enlevé pour essayer justement de déterminer ce seuil de tolérance. Donc, ça se compte plutôt en semaines et non pas forcément en mois.
Parce que cette intolérance, ça veut dire qu'on pourrait tout de même prendre un peu de ces aliments, mais il faut juste savoir bien les doser, c'est ça en fait.
Voilà, il y a un seuil de tolérance qui est différent d'une personne à l'autre, et puis qui permet de quand même consommer des petites quantités de ces aliments avant d'avoir ces désagréments digestifs. Donc c'est important pour éviter justement des régimes stricts de découvrir quel est ce seuil de tolérance, et on se rend compte que au bout d'un moment, si on mange trop des aliments contenant ce sucre, eh ben on a des soucis digestifs. Par contre, si on règle un peu sa consommation, c'est OK.
Justement, enlever des aliments ou en tout cas les restreindre, ça peut faire peur, ça chamboule les habitudes alimentaires. Vous travaillez avec une application qui peut se révéler très utile.
Alors oui, on a une application qui a été créée par l'université de Monash en Australie. Ils sont un petit peu pionniers et spécialistes dans le domaine. Et puis cette application, elle permet justement d'entrer pour chaque aliment sa teneur dans les différents FODMAPs, avec aussi des couleurs qui nous permettent de savoir si c'est un aliment qui est très riche ou si c'est un aliment qui contient une petite quantité, donc on peut manger en petite quantité. Et puis on a assez peu de valeurs de table nutritionnelle actuellement avec ces teneurs là donc cette application, elle est vraiment très pratique, en tout cas pour nous et pour nos patients.
Et puis les patients qui vont peut-être voir apparaître de nouveaux logos, hein, puisque on en parlait hors antenne, certains supermarchés ont déjà le logo contenant qui signale les FODMAPs sur certains produits.
Oui, j'ai vu dernièrement, alors pas encore sur beaucoup de produits, mais je pense que ça va se développer.
Séverine Chadel, on vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques instants ce matin avec nous. On mettra évidemment toutes les informations tout à l'heure sur la page de Format A3. On vous souhaite une très très belle journée.
Merci, belle journée à vous aussi.